n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant dans RFI Soir. Et c'est avec vous, Eddy Vautrin-Dumaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études à Kantar Public, un institut de sondage. Tout d'abord, il y a ces nombreux messages de soutien à l'endroit de Bernard Tapie. L'ancien ministre et homme d'affaires a été agressé la nuit dernière avec sa femme. Chez lui, des cambrioleurs sont rentrés par une fenêtre, l'ont frappé, l'ont volé. La réaction de Bruno Le Maire au grand jury RTL.
Moi, je veux assurer Bernard Tapie et son épouse de tout mon soutien et de toute ma solidarité. Je sais que c'est des faits qui sont graves, qui sont particulièrement bouleversants, donc je veux leur dire mon soutien et ma solidarité.
Et le président de la République a fait de même en téléphonant à Bernard Tapie. Bien sûr, l'agression est condamnable, mais l'unanimité de la classe politique, Eddy Vautrin-Dumaine, montre que Tapie est résolument quelqu'un à part.
Effectivement, il est à part. Il est aussi l'image d'une époque qui révolue, hein, celle des années 80, avec ses bons côtés, celle du succès, celle de l'homme qui a de multiples talents et qui avait aussi un certain bagout politique, hein, une certaine franchise que les Français ont du mal à retrouver aujourd'hui.
Même si le temps passe vite, ce n'est que mercredi dernier que plus de 30 millions de Français ont regardé Emmanuel Macron à la télévision annoncer l'extension à la France entière du reconfinement, qui ne veut pas dire son nom. Le président de la République mise sur la campagne de vaccination pour sortir de la crise sanitaire. Adrien Quatennens de la France Insoumise était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Voilà ce qu'il dit sur le vaccin pour tous.
L'Organisation mondiale de la santé, c'est pas par idéologie qu'elle appelle à la levée des brevets. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on a un portefeuille de vaccins qui est assez restreint par la logique européenne de marché. C'est une logique de marché. Pfizer envisage de faire 15 milliards de bénéfices en 2021 avec le vaccin. Vous avez des patrons de laboratoires qui sont devenus, en pleine pandémie, milliardaires. C'est encore la loi du fric qui domine. Si on levait les brevets, et donc ensuite ce qu'on fait, c'est que partout où on a des chaînes de production, où on peut produire des vaccins, doit être un bien commun, et ouais. Surtout, je le dis, ne pas faire d'idéologie avec le vaccin.
Et puis, le numéro 2 de la France Insoumise tire bien évidemment sur le chef de l'État.
Nous avons maintenant deux adversaires en quelque sorte. Évidemment le virus, mais aussi Emmanuel Macron et l'équipe en place, qui ratent absolument tout depuis le début, faut le dire. Quand M. Macron, au mois de janvier, et d'ailleurs il n'a pas sollicité le Parlement pour le faire, prend tout seul la décision de ne pas reconfiner, sans pour autant planifier aucune alternative au confinement pour limiter la circulation du virus sans reconfiner. Que se passe-t-il alors? La situation se dégrade et donc il n'a pas d'autre choix, compte tenu de la tension à l'hôpital, que de procéder à un nouveau serrage de vis.
Alors la lutte contre le coronavirus, c'est aussi cette enquête qui vient d'être ouverte après la diffusion à la télévision d'un reportage dans lequel une source anonyme affirme que des ministres ont participé à des dîners de luxe clandestins, cela donc en contravention avec les mesures sanitaires en vigueur. Marlène Schiappa, bras droit du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit ceci lors du grand rendez-vous d'Europe 1.
Si d'aventure il y avait des ministres ou des députés qui auraient enfreint les règles, il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme chaque citoyen.
Et son collègue du ministère de l'économie déclare, lui, qu'il n'y a pas de passe-droit pour personne. Le procureur de la République a donc saisi ce soir la police judiciaire pour une enquête pour mise en danger d'autrui et travail dissimulé. Eddy Vautrin-Dumaine de Kantar Public, si cela s'avère, bien évidemment, c'est le devoir d'exemplarité qui en prendrait un coup, du genre « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » de la part d'un certain nombre de ministres.
Effectivement, parce que le seuil de tolérance des Français, il est relativement bas, pour ne pas dire nul. Dans ce contexte, ils sont lassés, ils sont inquiets, ils sont fatigués, ils sont usés, comme par ce confinement, par cette pandémie qui n'en finit plus. Néanmoins, il faut aussi avoir en tête que cette situation, cette histoire, elle est quand même compliquée et elle est quand même encore incertaine. Et qu'il y a quand même aujourd'hui des circulaires qui ont été passées dans les ministères, dans les cabinets ministériels, où justement l'idée était de dire attention, minimiser leur déplacement, le nombre de personnes disponibles, le nombre de personnes présentes, parce que justement, il faut éviter encore qu'il y ait de nouveaux ministres, de nouveaux membres de cabinet ministériel qui soient contaminés par le Covid, parce que ça montre aussi, d'une certaine manière, que le Covid les concerne davantage, parce que eux, finalement, continuent leur vie, même si, bien entendu, leur vie n'est pas celle du quidam ou des Français. Mais voilà, le signal, effectivement, n'est pas forcément très bon vis-à-vis de l'opinion publique.
Les deux dernières ministres en date à être testées positives au Covid, c'est Elisabeth Borne, ministre du Travail, travail et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Une autre polémique fait florès aujourd'hui. Elle est provoquée par ce qu'a dit Léonore Monconduit, maire écologiste de Poitiers, lors d'un conseil municipal. Elle a refusé que des subventions soient votées en faveur des aéroclubs du coin.
Moi, c'était mon rêve d'enfant de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants, en fait. Enfin, l'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. C'est pas une position dogmatique, c'est une question de responsabilité vis-à-vis de l'argent public aujourd'hui. L'argent public doit envoyer un signal de responsabilité, mettre dans la même phrase rêve d'enfant. Et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent. En fait.
Bruno Le Maire réagit vivement à ces propos, il les trouve absolument stupides.
La maire de Poitiers, elle fait tomber des masques sur ce qu'est vraiment le projet de l'écologie radicale. C'est une folie qui est révoltante parce qu'on entend un responsable politique dire qu'il faut changer les rêves des enfants, ça m'inquiète au plus profond de moi-même. Je n'ai aucune envie que la maire de Poitiers change les rêves de mes enfants. J'appartiens à un gouvernement qui estime que l'écologie doit reposer sur l'innovation, c'est les nouvelles technologies. Enfin, moi, je me bats pour que Airbus soit le premier constructeur aéronautique au monde à réaliser un avion à hydrogène. C'est ça le vrai rêve. C'est pas la décroissance, c'est pas le repli sur soi, c'est pas l'abandon des technologies, c'est pas le renoncement au progrès.
Également membre du gouvernement, Marlène Schiappa ouvre le feu sur la maire écologiste de Poitiers.
Moi, j'observe que Europe Écologie Les Verts décide de supprimer les subventions à des clubs d'aviation qui réalisent des rêves d'enfants, mais trouve que c'est OK de donner 2,5 millions d'euros à une mosquée proche des sphères Erdogan. Donc, si vous voulez, en quelques mois, les maires Europe Écologie Les Verts, on pourrait faire un best-of de toutes les décisions sectaires des maires Europe Écologie Les Verts.
Alors, directeur des études à Kantar Public, Eddy Vautrin-Dumaine, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Cette phrase va certainement devenir l'illustration de ce qu'on appelle l'écologie punitive.
Effectivement, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est utilisée, notamment par une partie de l'opposition. Néanmoins, elle est quand même révélatrice d'un défi, en tout cas, d'un point de vigilance à avoir, notamment pour ces nouveaux maires écologistes, c'est qu'ils ont été élus, ces maires écologistes, pour créer de l'apaisement, pour dépasser des clivages politiques que les Français jugeaient finalement dépassés. Et il ne faudrait pas que ces nouveaux maires, ces nouveaux présidents d'exécutifs locaux en viennent à incarner de la radicalité, à incarner de l'affrontement, parce que justement, c'est aussi cette capacité à dépasser les clivages politiques qui a fait qu'ils ont pu être élus, parce que les Français aujourd'hui, ils ont besoin d'une politique volontariste en matière de développement durable, bien entendu, ils ont besoin d'actions fortes, mais s'ils veulent justement créer de l'adhésion et la leur socle électoral, il faut qu'ils puissent le faire sur un projet politique qui soit émancipateur, qui vienne apaiser les pays, qui soit positif et justement qui ne vienne pas créer, comme le font ou comme le faisaient plutôt les partis politiques classiques, de la radicalité, de l'affrontement, de la violence, des polémiques, etc. Donc la ligne de crête, elle est compliquée pour ces nouveaux élus et c'est aussi à travers leur manière de gouverner, leur choix, qu'ils devront montrer justement qu'ils sont capables de faire de la politique autrement, tout en gardant justement cette nécessité et cette capacité à décider avec des mesures fortes et pour le coup clairement en lien avec leur positionnement écologiste.
Dans un quart d'heure maintenant, sur le plateau de France 2, il y aura Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre sort un livre dans quelques jours intitulé « Impressions et lignes claires ». Dans le magazine Le Point, il déclare qu'il n'a pas renoncé à la politique et qu'il aime, je le cite, « être aux manettes ». Alors sa cote de popularité est éclatante, Eddy Vautrin-Dumaine, c'est même l'homme politique le plus populaire de France.
Effectivement, il caracole en tête de tous les baromètres. Nous, il est premier, il est 10 points devant la deuxième personnalité politique qui est Nicolas Hulot. Néanmoins, il faut être extrêmement prudent parce que être en tête des sondages, ça ne veut pas forcément dire être capable d'avoir un potentiel et des succès électoraux. Néanmoins, il incarne une droite moderne. Il incarne aussi l'exercice du pouvoir, la fidélité et la loyauté au président. Donc, effectivement, il bénéficie d'une bonne opinion auprès des Français, mais néanmoins, il faut aussi avoir en tête qu'une candidature, c'est une dynamique, c'est une direction perçue, et c'est aussi la capacité à rassembler les Français autour d'une personnalité, bien entendu, mais aussi et surtout autour d'un projet politique. Et pour l'instant, le projet politique d'Édouard Philippe, il n'est pas encore clair.
Oui, vous devancez ma question. Édouard Philippe a quitté le gouvernement, voilà, 9 mois. Sa diète médiatique prend fin. J'allais vous demander donc s'il faut interpréter cela comme des manœuvres en vue de la prochaine élection présidentielle.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que si lui n'y pense pas, il y a des gens qui y pensent pour lui. Donc effectivement, l'objectif, c'est justement de se compter, de voir justement s'il est capable d'enclencher cette dynamique-là. Mais encore une fois, hein, pour que cette dynamique-là, elle puisse à terme aboutir à une candidature qui soit crédible, qui puisse créer de la cohésion, de la dynamique, de l'union autour de lui, il faudra qu'elle soit incarnée à travers sa personnalité, à travers des porte-paroles, et puis aussi vraiment à travers un message politique fort. Qu'est-ce que c'est la France d'Edouard Philippe? Quel est son projet politique? Comment est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il perçoit la France des 10 ou 15 prochaines années? Et pour le coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à incarner à date, notamment dans ce contexte de crise sanitaire qui parasite, qui monopolise complètement l'actualité depuis un certain nombre de mois.
Et au sein de La République En Marche, qui est le parti présidentiel, dont ne fait pas partie officiellement Edouard Philippe, il y a deux manières de voir les choses, soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Les macronistes peuvent espérer qu'il apporte à Emmanuel Macron ce qui reste de la droite, qu'il a d'ailleurs fait exploser en devenant Premier ministre, ou alors d'autres s'inquiètent de sa popularité qui rime avec rivalité.
Effectivement. Après, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'électorat et les soutiens d'Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle, ce sont des profils plutôt à droite. Donc effectivement, la question, c'est comment est-ce que sera utilisé Édouard Philippe, et puis aussi peut-être, comment est-ce que Édouard Philippe tirera profit ou pourra utiliser ses sympathisants La République En Marche, qui pour l'instant manquent cruellement de leaders charismatiques pour des échéances, pour des scrutins nationaux, locaux, etc.
Merci pour ces analyses et commentaires. Eddy Vautrin-Dumaine, directeur des études à Kantar Public, dans RFI Soir avec Dimanche Politique.